Et voilà, c'est reparti pour la deuxième partie de l'émission Ondes Noires. Dans la première partie, je fais le sommaire à l'envers, moi, cette semaine. Ben oui, j'avais hâte de discuter avec Alain Beverini. Donc, nous avons eu Alain Beverini pour nous parler du film Dans la brume électrique. Je rappelle d'ailleurs
que c'est un film de Bertrand Tavernier,
qu'il sort le 15 avril et que nous avons Tommy Lee Jones dans le rôle de Dave Robichaud, ce qui nous promet un très bon film. Et ce n'est pas du tout ce que je voulais rappeler, Jacques. Je voulais rappeler qu'en téléphonant au 04 93 36 90 92, vous pouvez gagner deux places, deux contre-marques pour aller voir ce film dans n'importe quel cinéma, n'importe quelle séance.
Sauf le week-end.
Voilà, sauf le samedi soir et le dimanche. Voilà, donc dans la deuxième partie, nous allons vous parler de nos coups de cœur. Et Jacques, tu vas parler d'un de nos chouchous.
Et d'un grand coup de cœur aussi, donc c'est un roman de DOA qui s'appelle Le serpent aux mille coupures, qui est paru donc à la Série Noire. Et qui vaut 15,90€. On vous a déjà effectivement parlé de DOA sur cette antenne. On l'a même eu en interview lors de la sortie de son précédent roman qui s'appelait Citoyen clandestin.
On peut d'ailleurs préciser que Citoyen clandestin ressort en poche.
Voilà, je pensais le faire un peu plus tard, mais ce n'est pas un problème.
Mais...
il ressort en folio policier. Mais
merci de m'autoriser à t'interrompre, Jacques.
Voilà, en folio policier pour la modique somme de 8,10€. Ce citoyen clandestin faisait 700 pages. Ce nouveau roman de DOA en fait que 215, mais alors quelle page ? Très étonnant déjà, le titre, Le serpent aux mille coupures, c'est assez intriguant. Ensuite, la quatrième de couverture derrière.
Oui, en général, elle est souvent derrière, Jacques.
Sauf si on prend le livre dans l'autre sens. Trois mots, chasse-la, cocaïne et mondialisation. Et chaque mot étant suivi de sa définition du dictionnaire. Ce qui fait un drôle de trio, et on se demande bien ce que va faire DOA de tout ça. Et puis on rentre dans le livre, donc forcément, puisqu'on ouvre les pages, après avoir lu la quatrième de couverture, on commence la troisième page. Et alors, on a un paysan noir, près de Moissac.
Donc on commence à comprendre le mot chasse-là.
En plein sud-ouest, donc a priori, il doit être mal vu. Au Burkina Faso, évidemment, un paysan noir, ça passerait tout à fait. Mais au milieu des vignes, ça fait tache, si j'ose dire.
Oui, mais au Burkina Faso, ils ne cultivent pas la vigne.
Et voilà, surtout le chasse-là. Je rappelle que le chasse-là, donc c'est du raisin, mais ce n'est pas du raisin pour faire du vin, c'est du raisin de table. Entre autres, personnages, on a un flic espagnol et un tueur colombien, particulièrement sadique.
Marc, ils s'entendent pour la langue, c'est déjà bien.
Là, et puis du coup, on voit le rapport avec le deuxième mot, donc cocaïne. Il y a aussi un étrange motard qu'on va suivre tout le long du roman. Et pour faire le lien entre tous ces personnages, un peu comme de la maïzena dans une sauce, on a un colonel de gendarmerie qui, outre son enquête, se pose des questions existentielles sur son métier.
Est-ce que tu tendrais à insinuer que les flics font des grumeaux ? Non, enfin, je ne sais pas,
pas du tout.
Bon, c'est pas grave.
La maïzena, ce n'est pas du grumeau si tu...
D'accord,
si tu
c'est un liant.
C'est un liant. Et bien là, le liant est parfaitement réussi par DOA. Donc, évidemment, c'est un polar, un thriller... et un roman de DOA, donc on sent que tout ça va s'emballer très très vite. Les morts vont se succéder, de toute façon dès la page 5 il commence à y en avoir, et la paisible région de Moissac, ça a l'air assez tranquille a priori, ça va un peu se rapprocher pendant quelques temps d'un quartier de Bogota. J'en dis pas plus, parce que si je ne vais pas vous raconter, si je vous parle pendant une demi-heure d'un livre de 215 pages, il ne vous restera plus rien à lire. Mais ça va à fond la caisse, et dans un style brillant, vraiment, incisif, nerveux, on pourrait même dire rock'n'roll, mais du rock, un peu c'est même DOA qui le suggère lui-même, à la Joy Division. Si vous voyez ou si moins vous entendez ce que je veux dire. On ne sait pas évidemment tout de chaque personnage, il y en a quelques-uns, mais ça va. Il nous dit juste l'essentiel. Au fil des pages, on découvre ce qu'on a besoin de savoir sur eux, ni plus ni moins. C'est parfaitement réussi, et ce n'est pas parce que c'est court que c'est creux, au contraire. Car sous les pieds de vigne et tous les restes de cadavres carbonisés, on voit poindre une question dont DOA a déjà évoqué, c'est la raison d'État et ce qu'on peut en faire ou ne pas en faire.
Oui, c'était déjà large, même pas sous-jacent dans Citoyen clandestin.
C'était même pas, et c'était déjà aussi un petit peu sous-jacent dans son premier roman,
Les Fous d'Avril,
voilà, qui était paru au fleuve noir. Voilà, donc je ne sais pas, mais quoi vous dire de plus pour vous inciter à lire ce roman ?
C'est un grand roman.
C'est un grand roman, même s'il n'est pas épais. Et je pense qu'avec Caryl Ferré et Antoine Chénas, là en ce moment...
Ah, c'est un trio d'auteurs français, auquel je rajouterai le quatrième mousquetaire Patrick Pêchereau dans un tout autre genre.
Voilà, mais c'est parce qu'il est un peu moins jeune et il est déjà un peu plus d'ancienneté que je ne voulais pas le citer dans les récents de la série noire.
Voilà, donc ça c'est...
Depuis presque une dizaine d'années.
Voilà. Moi je vais enchaîner sur un autre ancien de la série noire, qui a commencé d'ailleurs dans la collection qu'on appelait à l'époque la collection de poche, et dont le 10, 12, 11e roman vient de paraître à la série noire. Vient, il y a quand même 2 ou 3 mois. C'est un livre de Ken Bruen. Alors, Ken Bruen... J'ai pas vérifié dans nos précédentes émissions, mais on vous en a même fois parlé des précédents romans, en particulier d'une série qu'on appelle la série R&B, parce que les deux personnages principaux s'appellent Robert et Brandt, deux flics
londoniens. Assez pourris.
Oui, très ripou même. Et puis il y a...
Plus ripou que pourri d'ailleurs.
Bien, je te remercie de cette précision, Jacques. Donc, deuxième série de Ken Bruen qu'on aime beaucoup avec un personnage très très fort, c'est la série des, entre guillemets, Jack Taylor. Et puis, quelques romans de jeunesse publiés chez Fayard Noir, comme Rilke au Noir. C'est vraiment un écrivain prolifique. Je pense qu'il y a une quinzaine de livres qui sont actuellement traduits. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'11e aux éditions Gallimard, dans la collection Série Noire. Et ici, par contre, on n'est plus du tout dans les Jack Taylor ou les R&B. Mais ce qui est sûr, c'est que Ken Bruen n'abandonne ni sa noirceur, ni sa causticité pour nous entraîner dans ce qu'on peut dire être un semblant de road movie complètement speed et totalement déjanté.
Alors, ce que peut-être tu pourrais nous préciser, le titre de ce roman.
Ah, mais c'est vrai, tiens, peut-être que ça peut aider à aller dans sa librairie. Ça s'appelle « Cauchemar américain ». Donc, vous avez compris que c'est de Ken Bruen, et c'est quand même, parce que c'est très important la traduction, traduit par Thierry Marignac. C'est de janvier 2009, je crois, et si tu me demandes le prix, je peux même te le dire, 21 € et ça les vaut. Donc, où j'en étais, le road movie, celui qui trace sa route, c'est Stephen, c'est un Irlandais. Et il part aux États-Unis attendre Siobhan, sa douce fiancée, et ils doivent se rejoindre à Tucson, Arizona. Pourquoi Tucson ? Parce qu'à Tucson, il fait beau et qu'en Irlande, apparemment, c'est comme ici, mais beaucoup plus souvent, il pleut tout le temps. Tommy, le meilleur copain de Steve, on va dire, puisqu'il appelle Steve aux États-Unis. Donc Tommy, son meilleur copain, est mort lors d'un braquage qu'ils avaient organisé, tué par, entre autres, déjà blessé, mais tué par Stapleton, qui est un ex de Lyra. C'est une brute, alors là, une brute épaisse, sans état d'âme, mais malheureusement qui est bien désœuvré depuis les accords de paix et qui reprend du poil de la bête en organisant des braquages. Donc, Steve arrive aux États-Unis et au cours de son périple, il débarque à New York, il va croiser de manière totalement improbable tueur en série, dealer frappadingue et un personnage de femme fatale, mais je ne sais pas comment le cerveau de Ken Bruen peut imaginer cette femme, dont Sherry. Tous ces personnages sont tous plus violents les uns que les autres. Ils carburent tous à des substances dont on peut dire pour le moins qu'elles sont illicites. Et petit à petit, les cadavres s'accumulent autour de l'Irlandais qui poursuit sa route, lui, qui ne se rend peut-être pas compte de grand-chose d'ailleurs. C'est un récit échevelé, explosé, à peu près comme le cerveau des différents protagonistes, vitaminé par une bande-son qui va du country le plus traditionnel au rap, en passant par le rock, rock style Springsteen, la voix cassée de Tom Waits. Voilà, c'est un livre... Bon, allez, on va pas le classer. Un roman inclassable, mais c'est pas grave, c'est pas la peine de le classer, parce que, de toute façon, il est déjà classé, c'est un très bon roman. Voilà, alors, je vais redonner le titre. Cauchemar américain, Ken Bruen, à la série noire de chez Gallimard. C'est paru il y a pas longtemps. Voilà, ça à lire absolument. Vous allez à la fois bien rigoler et prendre un bon coup de noirceur. Un petit coup de musique.
Un petit coup de musique. Donc, en exergue du roman de Dewa dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un extrait d'une chanson d'un groupe qui s'appelle Interpol, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à ça. La chanson s'appelle Rest My Chemistry, et ben on va l'écouter.
pouvoir vous parler plus longtemps de nos coups de cœur, on se permet de couper un peu Interpol. Je voudrais rappeler, puisqu'on est dans les séries noires et que dans nos préférés, tu viens d'évoquer Caryl Ferré. Son dernier livre, Zoulou, continue son petit bonhomme de chemin et sa grande route dans les prix littéraires, puisque à Quai du Polar, il vient d'avoir le prix des lecteurs, haut la main, et qu'une indiscrétion nous a fait savoir que cette semaine, il reçoit aussi le prix du festival du film policier, qui ne se passe plus à Cognac, mais qui se passe à Beaune. Ce prix va lui être décerné aujourd'hui ou demain, je ne sais pas exactement, mais voilà, deux nouveaux prix pour ce très grand roman, Zoulou, de Caryl Ferré. Moi, je vais vous reparler maintenant, dans cette dernière partie, d'une réédition. C'est un livre de Donald Westlake, on en a parlé il n'y a pas longtemps, puisqu'il est décédé le 31 décembre.
Et puis quelques autres fois, parce que c'est un
auteur prolifique et un des grands du polar américain. Donc ce livre s'appelle « Envoyer les couleurs » et Donald Westlake l'a écrit en 69. On peut dire que c'est un écrit de jeunesse. Il a été initialement publié chez De Noël en 1972 et Rivage dans la collection Rivage Thriller, a la bonne idée de le republier. Je pense que François Guérif a à cœur de publier tous les écrits de Donald Westlake.
Et comme faut je noter l'ai dit, que la traduction a été légèrement revisitée. Pour
voilà, et puisque tu parles de ça, on va dire que c'est Michel Deutsch qui a traduit et recorrigé.
Non, Michel Deutsch. Christophe Mercier qui a revisité.
Voilà, pardon. Petite erreur. Michel Deutsch pour la version originale, on va dire, et une légère retraduction. Donc, ce livre-là donne une bonne idée de l'univers de Westlake. On a un univers absurde, des personnages pittoresques, des situations à se tordre de rire. Et pourtant, Westlake évoque ici un sujet très sérieux. Et quand même avec beaucoup de sérieux. C'est là un des paradoxes où Westlake excelle, tout du moins excellé, malheureusement. Donc, pour résumer un petit peu l'histoire, on a un jeune prof blanc, un peu blanc-bec d'ailleurs aussi, qui est nommé dans un établissement fréquenté par les Noirs, où la plupart des profs sont Noirs, dans un quartier noir. Il a donc pris la place d'un Noir, donc grève et manifestation immédiate. Mais tout serait simple si, premièrement, le prof en question n'était pas le fils du directeur. Et deuxièmement, s'il ne tombait pas red-dingue amoureux d'une jeune prof noire de cet établissement et qui, cerise sur le gâteau, en plus est très militante. Sans compter que ce jeune naïf va plutôt pencher pour la cause des Noirs. Il va même dans leurs meetings, il va faire des cours bénévoles aux gamins qui sont en grève. Bref, situation complètement explosive. Ça pourrait être caricatural. Merci, Jacques. Mais en fait, c'est une très belle leçon de narration. C'est une histoire qui, en plus, ça fait quand même 69-2009, 40 ans. Histoire qui n'a pas pris une ride. Des personnages excellemment bien campés. Les rôles principaux, les personnages secondaires, jusqu'aux scènes de foule qui sont très, très bien décrites. Rien ne se passe, ou presque. On a le rythme d'un thriller. Rien ne semble sérieux. Et pourtant, on a une sérieuse critique des mœurs américaines. On a même droit à une espèce de fin hollywoodienne. Ça m'a rappelé des tas et des tas de films où est-ce qu'il va y avoir une happy end ou pas? Je vous laisse le découvrir en lisant le bouquin. Mais on a un dernier rebondissement qu'on attend, certes, mais ça va nous happer jusqu'à la dernière ligne et on va être encore très, très légèrement surpris. Bref, vous avez compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande. Je vous en rappelle le titre, « Envoyer les couleurs », l'auteur, Donald Westlake, la collection « Rivage Thriller », le prix, 20 euros. Donc, je recorrige ma petite erreur du début. C'est un livre qui a été traduit par Michel Deutsch avec une... la traduction qui a été revue par Christophe Mercier. Et pour terminer cette émission, je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un petit extrait. Donc, critique sociale. Ne vous méprenez pas. Je n'ai rien contre les gens de couleur. Ils ont le droit de vivre comme tout le monde. La seule chose, c'est que j'enrage quand je vois des blancs intelligents et cultivés comme vous, comme certains travailleurs sociaux que j'ai connus, et d'autres encore, se casser les dents en essayant d'apporter à ces gens-là quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à assimiler. Ils ont la tête trop petite, à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est un fait scientifique. Je suis professeur d'anglais. Eh bien, c'est comme ça. Il se tapota le front du bout des doigts. Leur crâne est plus épais que le nôtre. Comme leurs os sont plus volumineux, il y a moins de place pour la cervelle. C'est pour ça aussi que les nègres sont d'aussi bons boxeurs. Il est plus difficile de les mettre KO. C'est un fait scientifique. Je l'ignorais. Maintenant, vous n'ignorez plus. En d'autres termes, plus il y a d'espace à l'intérieur et plus il y a de place pour la cervelle, c'est le bon sens même. Bien sûr, je ne l'avais jamais réalisé jusqu'à présent. Alors, ça veut dire que les nains sont des idiots, hein ? Lui demandai-je avec toute la naïveté que j'étais capable d'afficher. Il prit cela pour argent comptant et l'effort de la réflexion creusa son front. Il avait une grosse tête. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit peu le ton du livre et surtout envie de le lire. Eh bien, cette émission s'achève. Jacques, à la prochaine pour d'autres coups de cœur et peut-être une autre interview. On vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et surtout de vous abriter de la pluie. Bonsoir.
Bonsoir.
Agora vous donne l'heure. 19h sur Agora.